RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas l'annonce classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Excuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs. Nous sommes en direct, bien sûr, en direct sur RMC à la radio, en direct sur RMC Sport News à la télé, dans l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Ils sont là ce soir, Jonathan McCarty. Jonathan, bonsoir.
Salut les gars.
Et Pierre Ducrot. Pierre, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Alors l'événement dans l'after ce soir les gars, c'est la lutte à distance qui s'installe entre Lyon et Saint-Etienne. Et pourtant il n'y a pas une grande distance entre Lyon et Saint-Etienne. Qui va jouer la Ligue des Champions? Info, débat à suivre au 32-16 bien sûr, supporters stéphanois et lyonnais. On vous attend d'ores et déjà. D'ailleurs Jonathan, on veut parler des Verts dans quelques minutes.
Je pensais que c'était la présence de Joe le lundi moi, l'événement déjà. Ah oui.
C'est vrai.
Bah oui, attends, moi j'ai pas l'habitude. Ouais, mais le lundi c'est tout le temps Daniel.
T'as pas fait beaucoup de fois ensemble cette année mon Pierre, en plus.
Non, c'est vrai. Bah depuis, je me demande même si depuis la Coupe du Monde on a été ensemble, je crois pas. À nous de montrer, Joe, qu'on peut faire un after ensemble. Allez, et que c'est pas mal. Allez. C'est parti, Gilles.
D'ailleurs, c'est un peu comme si on faisait jouer Paredes et Rabiot ensemble, en fait. La saison prochaine, donc...
Version A.
Bah, version A, c'était la saison sans Coupe d'Europe. Bon, là, depuis ce week-end.
Ouais, on a déchiré les feuilles, on l'a mis à la poubelle.
À la broyeuse.
Voilà.
Maintenant, t'as la version Champions League ou la version Europa League.
Ouais.
En gros.
Ah ouais.
Hein et on commence à croire à la Champions League, d'autant qu'on fait ses petits calculs à Saint-Etienne et qu'on se rend compte qu'une qualif en phase de groupe, ça rapporterait
trentaine de millions.
Exactement, 28 millions d'euros de rentrée juste pour participer, ouais. Sans compter les recettes billetterie.
Ouais, puis un peu de produits dérivés en plus parce que ça génère toujours voilà, t'as toujours une résonance quand t'es en Ligue des Champions.
Là-dessus, imaginons que tu passes la phase de poule. Jamais. Voilà, il peut se passer des choses, donc économiquement c'est intéressant. Ça permettrait à Saint-Etienne de rembourser des dettes, parce que
ouais.
On sait que Saint-Etienne a
une vingtaine de millions, je crois, de dettes,
a des prêts en cours, emprunts auprès de deux banques étrangères, en partie pour couvrir la masse salariale. C'est quand même assez inquiétant hein, quand un club emprunte pour payer les salaires. Bah, c'est pas très vertueux comme système.
Au prix de l'argent aujourd'hui, c'est bien. Faut emprunter, faut être endetté un petit peu aujourd'hui.
Oui, effectivement, les taux sont pas énormes.
D'ailleurs, regardez ces millions pour racheter des joueurs là. Les prêts vont être remboursés petit à petit. Au prix de l'argent aujourd'hui, faisons marcher les banques.
Toi t'es un bon spéculateur toi.
Ah non, mais attends, elles veulent tout faire les banques.
Bon, en tout cas, ouais, intérêt financier. Et puis on se dit bon, à Saint-Etienne quand même, la Ligue des Champions, ça a de la gueule. Voilà.
Ah ouais,
donc,
Geoffroy Guichard, ça va.
On veut la vivre, ça y est. Il y a peut-être un basculement qui est en train de se faire dans l'esprit des
ils le disent. Moi, je pense que les joueurs, ils pensent depuis un petit moment quand même. Depuis 3-4 matchs, je pense qu'ils doivent vraiment l'avoir dans la tête de toute manière. Quoi.
Et puis avant l'avis de Jonathan, je me suis amusé moi aujourd'hui parce que c'est quand même un truc. Il y a une rivalité régionale énorme, deux clubs qui sont des clubs historiques aujourd'hui.
C'est la rivalité du championnat de France.
Bah, c'est le derby,
la moins artificielle, bien sûr. Ouais.
Hein. Donc je me suis amusé à faire un petit sondage et je me suis dit bon, je pense que Saint-Etienne va arriver en tête, 55-45.
Non.
Tu vois. Donc j'ai mis. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Êtes-vous plutôt OL ou ASSE? Eh ben, le résultat, moi, m'étonne.
70-30.
68. Tout à l'heure, c'était 69, ce qui était assez drôle.
Ouais.
Mais 68, % des votants, il y a presque 10 000 votants, disent qu'ils préfèrent Saint-Etienne à Lyon.
Et bien sûr,
ah bah oui. 32% des votants
ça,
disent
ça,
Lyon.
Gilbert, ça surprend pas. Lyon a gagné pendant, a dominé la Ligue pendant des années. Lyon a un club polarisant.
Ça me surprend pas, mais l'écart me surprend. Moi, je m'attendais à un truc plus serré, quand même.
Lyon génère plus de passion, actuellement. Lyon génère plus de passion en positif comme en négatif. Donc Lyon est détesté par plusieurs bastions du foot français.
Ouais, voilà, je pense
Marseille,
que Lyon a toujours eu un petit déficit d'image.
La rivalité historique de Marseille, c'est Saint-Etienne
à la base,
et Bordeaux.
Bien sûr.
C'est pas Lyon.
C'est Saint-Etienne et Bordeaux, bien sûr. Ouais,
ouais mais ça me
jusque-là, la première rivalité, c'est Toulon.
Oui, bon là.
Ouais, bon.
C'est Toulon, Bordeaux et Saint-Etienne.
Mais ça m'étonne pas du tout que les Verts aient une cote de sympathie plus importante. C'est pas du tout surprenant. Mais oui. Ah ouais, carrément.
Bon, donc vous n'êtes pas surpris par ça.
Ah non, je suis pas du tout surpris.
Lyon est un club polarisant, c'est comme le PSG ou Marseille.
Ouais, c'est pareil, exactement.
On débat bien sûr ensemble et Jonathan veut parler des Verts. Jingle, McCarty.
T'as une ouverture en profondeur d'Aouar, et puis Dubois n'y va pas, Depay n'y va pas, il se regarde les yeux en chien de faïence.
Ah, t'avais fait un mix.
Ouais, ouais, un petit peu, ouais.
Et tu voulais parler de Saint-Etienne?
Oui, parce que, bon, alors, comme on l'a dit, ils sont en course pour toujours se qualifier en Ligue des Champions, avec certains points de retard sur Lyon, mais un calendrier qui me semble un peu plus favorable. Et sur ces trois matchs, ce que je pense, c'est que Saint-Etienne, ils peuvent vraiment changer le cours de leur histoire actuelle. Je pense vraiment qu'ils peuvent franchir un palier historique pour eux. Pourquoi? Alors, c'est vrai que j'ai entendu, en faisant mes petites recherches, j'ai parlé avec pas mal de supporters sur Twitter, passé quelques coups de fil à même à quelques-uns, on a échangé cet après-midi. Et bien, c'est vrai que ce que tu disais en préambule, ben il y en a pas mal qui font un peu les peines à jouir et les esprits alarmistes en disant oui mais la Ligue des Champions, est-ce que c'est pas une marche un peu trop haute pour notre club? Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Est-ce qu'on va pas être ridicule dans la compétition? Mais je pense que si on regarde les choses objectivement, les Verts méritent réellement de se qualifier et je pense que plus encore ils doivent se qualifier pour trois raisons. La première, ils le méritent sportivement. L'équipe est au niveau. Alors c'est vrai que on a envie, en tant que suiveur du foot français, de voir un club comme l'Olympique Lyonnais être en Ligue des Champions, parce que c'est un nom important, parce que c'est important pour l'indice UEFA, ce que tu veux. Mais quand on voit ce que les Verts font depuis 6 mois, et ben sportivement, ils ont pas à rougir. On a été beaucoup critiques des Verts en première partie de saison, avec des prestations qui étaient irrégulières. C'était pas toujours ça. Des choix au mercato hivernal qui ont fait beaucoup parler, avec le départ d'un de mes chouchous, Lasselnes, qui a pas vraiment
eu de... T'es chouchou, lui.
Ah, je l'adorais, ouais.
C'est vrai, ça,
ah,
bon.
J'adorais sa qualité de passe, son élégance, c'est un, bref, ça s'explique pas.
Moi, j'ai jamais été très fan, moi.
Mais, donc, mais,
c'était le meilleur. Ça a fait mal, hein, son absence.
Les gars, c'était leur meilleur joueur de la première partie de saison, Selnes. Mmh. Et donc, du coup, ça a créé pas mal de questionnements sur quelles étaient les ambitions des Stéphanois. Mais force est de constater que sur la deuxième partie de saison, elle est de très grande qualité. Il y a plusieurs éléments. Alors, il y a eu le retour, enfin, de Robert Berić. Je m'étais pris avec Ghislain Printemps, sur ce sujet, discuté, en off, etc. J'ai du mal à comprendre. Et moi, j'étais persuadé que Berić, en revenant dans l'équipe, il remettrait l'équipe à flot. Bon, bah, ça a pas loupé. Berić, c'est un attaquant de qualité. Johnny est sur le banc, à sa place. Et ça a changé la phase offensive de cette équipe. T'as l'intégration réussie de Valentin Vado au milieu de terrain, qui apporte une belle touche technique. On comptait plus sur l'arrivée de Benacer, qui au final est un petit peu en retrait, mais Vada a vraiment...
Bon, il a joué quand même.
Ouais, il a joué, ouais. Mais je pense que ça va mieux depuis que Vada est vraiment plus dans l'équipe, et parce qu'il a pu combler le manque technique du départ de Selnes. Et puis t'as un staff avec Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps, qui ont réussi, à mon sens, sur cette deuxième partie saison, à donner une vraie identité dans le jeu de leur équipe. C'est pas toujours un football d'esthète, mais t'as le plus important pour la Ligue 1, du caractère et de la vitesse dans les phases de transition, avec du talent offensif que beaucoup d'autres équipes n'ont pas. Et ils ont réussi surtout à aller contre des vents contraires, à savoir les deux blessures hyper importantes, celle de Kevin Monet-Paquet et de Gabriel Silva, qui étaient deux titulaires indéboulonnables. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on constate depuis plusieurs années que le club est de mieux en mieux structuré. On rigole parfois un peu du côté un peu vieille garde de cette direction bicéphale des deux présidents, qui ont parfois des discours un petit peu dans notre temps. Mais quand on regarde bien comment le club et comment le club travaille, notamment au niveau de la formation, tu dis c'est pas mal. Cette saison, on a vu éclore Saliba et Nordin, deux très bons joueurs, deux très beaux jeunes. Mais là, t'as quand même le club qui vient de gagner encore la Gambardella. T'as probablement une des plus belles générations de jeunes joueurs en France. Je pense que Pierre, tu dois un peu prospecter, tu dois voir que là-bas il y a quand même du talent. Et alors retenez ces noms, parce que je pense que l'année prochaine on pourra voir Rocha Santos, le dribbler fou là, Ben Kedim, qui est très prometteur, et surtout Marvin Chibuya Bua, un peu dur à dire, qui est un défenseur central encore prometteur. Ils ont aussi réussi à signer le petit Harold Moukoudi en post-formation.
Eboa.
Je sais pas. Chibuya Bua. Marvin Chibuya Bua.
Il va d'ailleurs falloir qu'il y en ait un qui partent à mon avis en prêt parce que ça fait beaucoup de monde là.
Ça fait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes défenseurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que qualitativement et quantitativement, t'auras de quoi abreuver l'équipe première. Et alors c'est vrai qu'on parle souvent de la formation à la lyonnaise qui vient enrichir sportivement et financièrement le voisin Gone, mais laisse Saint-Etienne de ce côté-là. Pour moi, ils sont sur une vraie passe.
Ça fait quelques années au niveau de la formation.
Exactement.
Ça fait quelques années qu'ils sont performants.
Et on va saluer le travail de Philippe Guillemet, de Laurent Batnes et surtout de Razik Neder, qui est le coach des U19, qui est un des entraîneurs les plus prometteurs en France actuellement. Et voilà, ça c'est vraiment signe d'un club qui se structure, qui est sur la bonne voie, qui arrive à sortir des jeunes. Et la troisième raison, pour conclure, c'est que je pense vraiment que cette qualification, elle peut faire changer le cours de l'histoire stéphanoise en ce moment. Alors, on a vu pas mal de bruissements au creux de l'hiver. Le club cherche à ouvrir son capital. Pas forcément changer de président, mais à accueillir un autre actionnaire, d'autres investisseurs. Et quand on regarde le produit comme ça, il est attrayant. T'as un public qui met toujours le feu, t'as un stade qui est mythique, t'as une histoire, t'as un bassin de population, t'as un maillot même qui est beau, et puis il y a de quoi faire. Et alors, moi, ce que je dis, c'est que quel est le plus bel avantage comparatif pour un club pour attirer des investisseurs? C'est la Ligue des Champions, c'est la vitrine grossissante, c'est la Ligue des Champions, c'est ça, c'est les soirées européennes du mardi et du mercredi. Et donc je pense que Saint-Etienne, qui cherche à ouvrir son capital, il n'y aura rien de mieux pour eux que d'avoir la Ligue des Champions. Et je pense qu'avec la Ligue des Champions, et vu les structures du club, Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un gros investisseur qui puisse arriver du côté du Forez cet été, et à mon avis ça pourrait vraiment changer leur destin.
Tu veux dire que limite ça pourrait encore plus apporter que dans un club comme Lille par exemple qui aura la Ligue des Champions.
Je pense, parce que Lille
ça peut faire quelque chose de grandiose.
Je pense ça peut les faire passer un cap dans tu vois sur l'étalage là des clubs ou dans lesquels ils font investir en France, ça peut permettre d'attirer un plus gros poisson. Et on sait que l'argent est quand même le nerf de la guerre,
bien sûr.
Mais à mon avis, vu le potentiel du club et en plus de la Ligue des Champions, je pense vraiment qu'il peut se passer un truc très intéressant à Saint-Etienne l'année prochaine s'ils l'ont.
Pierre, est-ce que tu es d'accord avec l'optimisme stéphanois de Jonathan?
Il n'y a pas beaucoup de place dans le foot français comme Saint-Etienne. Il y aurait par exemple Lens, si Lens jouait les premiers rôles aussi en Ligue 1 un jour, on leur souhaite, mais ça pourrait donner un peu le même genre d'avis tranché, parce que t'as à peu près le même potentiel, c'est-à-dire le côté historique, t'as une histoire quand même à Lens,
le palmarès
européen, enfin l'histoire en Europe, en termes d'histoire nationale en France, Lens c'est une place du foot français. T'as ce potentiel public qui est pour moi l'atout majeur pour un investisseur. T'as le public qui vient à Geoffroy Guichard, t'as le bassin, comme tu dis, de population, et puis t'as l'amour des Verts, mais partout en France et voir un peu plus loin. C'est quelque chose de réel. Et si ça redémarre, effectivement, ça peut donner envie à quelqu'un de venir investir.
En plus, on sait.
Et comme tu l'as dit, à un moment donné, oui, pour le foot français, c'est bien d'avoir Lyon en Ligue des Champions, mais si Saint-Etienne est devant Lyon à la fin, c'est qu'ils l'ont mérité, et qu'ils l'ont mérité un peu plus que Lyon, et c'est tout. Et on doit même pas, sur un plan sportif, on doit même pas se poser la question à un moment donné. Si Saint-Etienne est devant Lyon, fini devant Lyon, parce que c'est pas encore sûr, eh ben c'est que Saint-Etienne l'aura pu se mériter. Et pour le foot français, moi je trouve ça bien à un moment donné que ce soit celui qui mérite le plus qui aille.
Pierre, dans la configuration actuelle, je me demande même si ça serait pas mieux pour les deux clubs. Alors c'est vrai que ça ferait un manque à gagner financier pour l'OL.
Ouais, ça serait dur.
De voir Lyon commencer en Europa League en se fixant comme objectif de le gagner, je pense que c'est une compétition qui est à leur mesure. La Ligue des Champions un petit peu moins.
Ouais.
Mais faudrait vraiment qu'ils basculent vraiment à fond sur l'Europa League.
Faudrait vraiment qu'ils basculent là-dedans. Alors
sur Direct Studio, j'ai Padel 38 qui me dit vous oubliez que c'est Jean-Michel Aulas et son attitude qui font pencher la balance de la sympathie en faveur de Saint-Etienne plutôt que de Lyon.
Mais bien sûr, si ça participe. Peut-être.
C'est juste Jean-Michel Aulas peut éventuellement participer.
Il est polarisant.
Et puis j'ai Bousta.
Puis il est jalousé aussi.
Bousta qui me dit, si Saint-Etienne va en Ligue des Champions, j'espère que leur entraîneur va pas nous faire une Jean Fernandez à l'époque d'Auxerre, du genre je vais prendre des photos avec un grand entraîneur. Ah, rappelez-vous. Et il y a Mourinho, magnifique, je vais faire des photos avec Mourinho.
Jean-Louis Gasset, il a vu quelques footballeurs et quelques coachs passer quand même.
Il y a eu un cas. Quand il y a eu récemment en Europa League un Saint-Etienne Manchester United, je me souviens très bien de Bernard Cazzo disant « Oh, oui. Fantastique, imaginez, on a reçu Alex Ferguson, oh, t'as l'impression que le gars, il était déjà éliminé avant que le match se joue. » quoi.
Effectivement, c'est possible que certaines personnes n'aient pas encore connu ça et soient un peu émerveillées par ça. Connaissant un peu Jean-Louis Gasset pour l'avoir au PSG, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, mais c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique aussi et extrêmement décidé quand il a quelque chose à faire. Et crois-moi que le soir des matchs de Ligue des Champions, il s'occupera pas de savoir.
Je pense qu'un mec comme Zlatan, quand ce
Gasset un tel ou un tel
violent, il écoutait quand même.
Exactement.
Avant d'accueillir Guillaume, qui est supporter de Lyon, je le précise d'ores et déjà, l'avis d'Edouard sur cette prise de position de Jonathan. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord, Edouard?
Juste une parenthèse parce que le match, c'est difficile.
Au basket, hein,
c'est difficile d'être concentré sur ce qui est dit et sur le match aussi en même temps. Et pour l'instant, l'ASVEL féminin est en train de faire une grosse performance puisque très vraisemblablement, alors qu'il reste une grosse minute, l'ASVEL va l'emporter 66-58. Ça peut encore changer en basket. Il y a encore le temps de 3-4 possessions, mais en tout cas l'ASVEL est en train de faire un énorme coup pour sa première finale, pour son premier match de phase finale avec 3 points supplémentaires désormais, 69-58 plus 11 à 54 secondes, c'est presque fait. Donc dans cette finale du championnat de France féminin, ça se joue au meilleur des 5 matchs, les deux premiers ont lieu ici à Lyon, c'est donc ce soir, et le deuxième ça sera mercredi. Ensuite il faudra aller deux fois du côté de Montpellier, à moins qu'entre temps les Lyonnaises aient emporté les 3 premiers matchs. Donc c'est bien parti pour les Lyonnaises. Du côté de Saint-Etienne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de vrai dans ce que tu dis. Alors attention parce que Pierre, au niveau des emprunts, j'ai plus les chiffres en tête, parce que j'ai pas mes dossiers sur moi, mais les intérêts sont élevés. Hein.
Les taux sont
élevés parce que ce sont des emprunts
immobiliers.
Non, ils ont été faits en Allemagne et je crois qu'il y a même 2 chiffres. Hein. Tellement c'est élevé. Ils ont pris d'énormes risques par rapport à ça, donc vrai que l'argent,
un petit remboursement anticipé, ce serait pas
ça peut aider. Alors faut pas oublier non plus que pour l'instant le troisième doit passer 4 matchs de barrage l'été. faut avant d'envisager les phases de poule, à moins que comme l'année dernière pour Lyon avec l'Atlético de Madrid, eh bien le vainqueur de l'Europa League soit déjà qualifié en Ligue des Champions par son championnat. Donc là
faut que Chelsea gagne.
Pardon ?
Faut que Chelsea gagne.
Chelsea, où il y a Francfort aussi, parce que Francfort en Allemagne est potentiel, voilà. Donc tout ça pour alors par contre, c'est vrai qu'au niveau de la formation, et Jonathan, tu as parlé de Razik Nedder, j'ai suivi un petit peu leur parcours, c'est formidable ce qu'ils font. Ils ont une super génération, on me dit que sur l'équipe il peut y avoir 9 à 10 contrats pro sur l'équipe de Gambardella.
Edouard, là c'est sûr, hein, Rocha Santos, Benkedi, mais Chibua Boua, là, je pense qu'on les verra en équipe première l'année prochaine.
Ouais, et des contrats pro, alors pas forcément à Saint-Etienne, hein, en équipe 1, mais et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a une super génération, et surtout Razik Nedder a pris à partir des U12 à Saint-Etienne, et il les a montés jusqu'en U19. Donc par exemple un Saliba ou un Wesley Fofana, il les connaît depuis tout petit.
Et puis ça représente un actif pour le club formidable, parce que c'est des jeunes joueurs qui plaisent à l'étranger et qui vont pouvoir
Saliba, par exemple,
tu refais une saison comme ça et ça rapporte quelques dizaines de millions, quoi.
Alors il a re-signé, il a prolongé et il nous a bien dit qu'il voulait rester cet été, hein,
la semaine
dernière, et on sent vraiment que c'est franchement c'est un gars qui a la tête sur les épaules. Qui est intelligent, qui écoute, c'est une vraie éponge, on me dit dans le groupe, tout ce que fait un Mathieu Debuchy ou un Loïc Perrin, il va choper toutes les petites choses. Il est encore au centre de formation parce qu'il vient d'avoir 18 ans, voilà, donc il n'est pas perturbé par tout son entourage, il a un plan de carrière, donc ça fonctionne super bien, et puis pourquoi pas que ça tourne bien. Alors pour l'instant il y a un alignement total de planètes, hein, du coup de Saint-Etienne, et je peux vous dire aussi que la victoire en Coupe Gambardella, c'est assez extraordinaire d'ailleurs, elle a vraiment aussi donné un élan au club, c'est assez marrant aussi cet aspect là c'était quoi, il y a 15 jours, oui c'était en même temps que la finale, donc c'était 29 avril, et donc ça donne un élan à tout le club, et donc aussi à l'équipe professionnelle. Et ce qu'on me dit aussi au niveau de la formation, c'est que non seulement il y a des bons jeunes, mais il y a beaucoup de cohésion et beaucoup de passage d'une équipe à l'autre, et vu qu'on est sur le même site à l'Etra, dès que par exemple les U19, Razik Nedder a besoin d'un gardien en plus ou d'un attaquant, il va piocher en N2 l'équipe de Roland Ramatès.
On s'inscrit dans un projet club.
Exactement.
Ça donnera des idées à certains.
Alors, il y a aussi une obligation à un moment donné, hein, c'est que on ne pouvait pas au niveau finance avoir un effectif XXL. Donc Jean-Louis Gasset l'a dit depuis le début, il joue avec 14-15 joueurs aguerris professionnels, et on va faire monter des jeunes, donc par obligation on va dire. Et il disait toujours attention, si on a des blessés, on peut avoir des trous dans la saison. Alors il y en a eu, mais ce qui est assez remarquable, c'est que vous avez Kevin Monet-Paquet qui est blessé, Gabriel Silva qui est blessé, deux titulaires, et bien on arrive quand même à Subotic aussi, mais Subotic il est suppléé par un certain William Saliba, parce qu'il y a aussi l'éclosion de tout ça. Et imaginez-vous que tout se joue, parce que pour l'instant Lyon a gagné les deux derbies sur le terrain, notamment le deuxième derby, souvenez-vous, à la 90e plus 5 avec cette tête de Moussa Dembélé, ce sera assez extraordinaire que le troisième derby à distance, et bien ce soit les Stéphanois qui le gagnent.
Merci. Toi tu vois les deux clubs évoluer là. Si tu devais mettre une pièce, tu la mettrais sur qui?
C'est vraiment ce week-end que ça va se donner. C'est vraiment ce week-end que ça va. Non, mais c'est vrai que les dynamiques. Alors,
Saint-Etienne joue à Montpellier et Lyon,
vendredi et Lyon Marseille et Marseille Lyon dimanche. En sachant que hier, confidence du staff lillois, si tu vois ce que je veux dire, Christophe Galtier, il me disait après le match, j'ai vu les Lyonnais et rentrer presque blanc sur le terrain au moment de rentrer, donc à 21h, parce qu'ils venaient d'apprendre que Saint-Etienne avait gagné et que Saint-Etienne était devant au tableau d'affichage. Alors Bruno Genesio nous a expliqué notamment en conférence de presse hier que ça n'a pas joué parce que l'entame a été plutôt lyonnaise, mais on a senti quand même que ça manque de confiance. Alors pour l'instant, voilà, il a un super alignement de planète positif du côté de Saint-Etienne, il l'est moins, et un problème de confiance du côté de Lyon. Alors est-ce que la semaine va un petit peu changer cette donnée, avec une donnée importante, c'est que vendredi Saint-Etienne joue vendredi soir et Lyon dimanche, et la conférence de presse par exemple d'avant le match de Marseille, d'habitude c'est 48 heures avant, donc 48 heures avant dimanche c'est vendredi, l'OL on l'a mis samedi, dans les discours évoquer peut-être le résultat de la veille. Voilà, c'est des petites choses qui vont nous rendre ce mois de mai épicé. C'est merci terminé ici.
Voilà le score.
71-60, donc les Lyonnaises qui remportent la manche 1 de cette finale.
Salut Doudou.
Merci Edouard, bonne soirée. Doudou. Guillaume est avec nous, 32e supporter de l'Olympique Lyonnais. Salut Guillaume.
Bonsoir messieurs.
Salut Guillaume.
Bon, et dans cette... t'as bien entendu là, hein. C'est les Verts, tout le monde annonce, ça y est, la dynamique, les jeunes et tout, ils vont le faire, les Lyonnais sont tout blancs, a dit Edouard G. Bon, tu dis quoi toi Guillaume?
Ouais. Bon alors moi aussi je suis tout blanc, je vous avoue que je suis pas très serein en ce moment, et si Saint-Etienne devait aller en C1, je serais le premier à les féliciter, mais il faut savoir raison garder, parce que tout à l'heure Jo parlait du calendrier. Moi, je vois que Saint-Etienne, ils ont quand même Montpellier et Nice. Je trouve que c'est pas si abordable que ça. Enfin, c'est quand même deux clubs qui font une belle saison.
Ils jouent plus grand-chose.
Ils jouent plus grand-chose, mais bon, c'est des places honorifiques, quoi. Et c'est vrai que Saint-Etienne est sur une super dynamique, mais après, je vais faire preuve de mauvaise foi à 1000%, mais je vois mal Saint-Etienne passer les poules en C1 l'année prochaine, quoi. Alors que Lyon, on sait qu'ils ont les armes pour lutter en Ligue des Champions et voilà, après, si Lyon allait en Ligue Europa, ce serait l'occasion de faire pas mal de changements. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ces changements, ils sont prévus pour l'intersaison.
Oui, c'est sûr.
Et à Saint-Etienne, moi, je vois qu'il y a un beau collectif, c'est vrai, mais s'il n'y a pas Ruffier, s'il n'y a pas Cazeri, moi, je ne sais pas qui ressortir du lot, quoi.
Ah, il y a Mbappé. Il y a derrière, c'est Zia Debuchy, il y a Saliba
qui est énorme.
Saliba qui est très bon. Kamela qui a fait une belle partie de saison. Il y a Berich qui est
dans son profil, bien sûr.
Non, il y a quand même des bons joueurs, Guillaume.
Bah, de toute manière, après, ça dépend sur quoi on se base, Guillaume, concernant Lyon. Si on se base sur les bons matchs qu'ils ont pu faire en Ligue des Champions, notamment cette saison, ou si on se base aussi sur la quinzaine de matchs où ils sont passés complètement au travers en championnat contre là où pourtant tu les attendais, quoi.
Guillaume, merci en tout cas.
C'est ouais, on a du mal à savoir sur quel pied on danse, quoi, avec Lyon.
Salut Guillaume.
Salut les gars, bonne soirée.
Ciao Guillaume. Attention, un but de dingue de Manchester City, une frappe de Kompany. Alors Kompany, souvent on le critique, on dit qu'il sert à rien, mais là il a mis un but de 30 mètres dans la lucarne.
Qui a dit que Kompany ne servait à rien?
Bah, ils sont critiqués, Kompany.
Ah ouais?
Bah oui.
C'est vraiment de rien comprendre au foot. Alors.
Il est blessé, c'est tout, mais
il a été souvent blessé, mais quand tu regarderas à chaque fois qu'il est apte, Guardiola le met, et pour les gros matchs, c'est lui, et c'est lui le patron.
De folie,
c'est lui le patron.
En plus, la lucarne, il reste 20 minutes, 1-0.
Qui reprend fonction, la tête donc du championnat anglais.
Ah, du côté de la Merseille, ça va pas trop là.
Et puis Lorient est toujours mené à Niort en Ligue 2, 2-1 pour les Niortais dans ce match à 3 minutes de la fin de la rencontre. Dans quelques instants, les infos du jour concernant le PSG, concernant l'OM, et puis le baromètre du moral des supporters de la Ligue 1 comme tous les lundis. C'est dans l'after dans quelques minutes. Bougez pas, à tout de suite.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Gros. Et là, Jonathan Bacardi également, 22h32 dans l'after. 1-0 toujours pour City face à Leicester. Il reste un quart d'heure à jouer dans ce match, 2-1 pour Niort face à Lorient. Il y avait un but pour Lorient refusé là, mais Mickaël Lambrou est totalement énervé qu'il s'est fait expulser là par l'arbitre du match, parce que Lorienté était
légèrement en jeu.
Exactement. Alors, des infos PSG sur lesquelles, messieurs, vous pouvez réagir. Attention, info de Loïc Tanzi et de notre petite équipe là qui suit le PSG. Thomas Tuchel va durcir le management.
Ah.
La kinésithérapie, c'est terminé, messieurs dames. Nous allons maintenant avoir un Tuchel en mode Vaïd. Alors il y a un truc moi qui me fait un peu halluciner quand même, de ce qui ressort des infos de nos fins limiers. Au PSG, alors on dit voilà, aujourd'hui il y a des joueurs qui aiment gagner et d'autres qui détestent perdre. C'est une grande différence. Nous, on a besoin de plus de joueurs qui détestent perdre.
C'est qu'il y a eu une erreur au départ de sélection, alors.
Non mais, enfin moi ça me fait un peu rire cette histoire. C'est, on s'attaque pas au vrai problème. Non.
Mais non, mais moi je suis pas. Rappelle-toi de ce que j'ai fait comme avis tranché la semaine dernière.
Oui, tout à fait.
Je te disais qu'à un moment donné, il allait falloir juste remettre l'église au milieu du village.
Juste enterrer Tuchel là. En une semaine, on se rend compte qu'en fait, il s'entend avec personne dans ce club.
Comment?
Ah, est-ce que je
oui.
sais pas
avec qui
je sais pas si c'est lui qui s'entend avec personne ou si c'est les autres qui veulent pas s'entendre avec lui déjà de base et c'est là que tu vois qu'il faut tout remettre à sa place dans ce club, c'est-à-dire qu'il faut remettre les bonnes personnes à la bonne place, c'est tout.
Le club doit être structuré de A à Z. Après c'est bien beau que Tourelle dise qu'il va serrer la vis, moi j'attends de voir maintenant parce que on en a beaucoup parlé samedi, mais sa petite déclaration d'après match, on est en match amical, on n'est pas sous tension et moi le premier, t'imagines l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Pierre, je sais que ce club est cher à ton cœur. L'entraîneur du Paris Saint-Germain dire, après en fin de saison, quand tu t'es fait humilier ou t'as tes supporters meurtri, de dire, on n'est pas sous tension, et moi le premier. Oh mec, t'entraînes qui? T'entraînes pas une équipe d'amateurs, t'entraînes le Paris Saint-Germain.
C'est surtout dans une période comme ça, où effectivement il se passe plein de choses.
Elle est où la décence quand il tient ce genre de propos?
Je sais pas, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que si effectivement il met stop à la calinothérapie, comme vous l'appelez, c'est parfait. Voilà, il faut effectivement remettre les choses à leur place, et un coach doit à un moment donné être une autorité dans un groupe,
après,
pas autre chose.
Pierre, franchement, je pense qu'on a tous été surpris des débuts, des premiers pas de Thomas Tuchel, parce qu'on avait cette image,
du mec
qui arrivait un peu militaire, qui va chez les joueurs, qui regarde dans les placards ce qu'il mange, qui est les flics, vraiment le super flic à l'allemande. Il est arrivé, c'était les câlins, les bisous sur la bouche après le trophée des champions. T'as l'impression qu'il a laissé un petit peu filer, et qu'à mon avis, il s'est dit, ok, j'arrive dans un club. Dans un grand club, j'ai pas d'expérience dans grand club parce qu'il a entraîné le Borussia, c'est pas le même niveau que le Paris Saint-Germain. J'ai pas l'habitude d'un club aussi médiatique, j'ai pas l'habitude d'un club avec autant de stars et tout. Il s'est fait tout petit et je pense qu'il a eu le cul entre deux chaises, tu vois, en se disant ok, il faut que j'arrive à un petit peu faire l'unanimité dans le vestiaire. Et puis d'un autre côté, j'aimerais bien quand même, tu vois.
Il y a eu deux phases.
Je pense que quand t'as le cul entre deux chaises, au bout d'un moment, les chaises elles s'écartent et puis voilà quoi.
Ah bah là, ça fait mal.
Ça fait très mal.
Bon, j'ai visionné un peu.
Ça fait Mascherano.
J'ai visualisé le truc.
Mascherano, demi-finale de Coupe du Monde, rappelez-vous.
Oui, effectivement. Non, mais moi, je crois qu'il y a eu deux phases. Il y a eu une phase où il est arrivé comme le Thomas Tuchel du Dortmund, où, rappelle-toi, même avant la reprise.
Quand il a fait la tournée des boîtes.
Voilà.
Il a voulu
mettre des choses en place comme ça.
Et le mec, il a quand même été à la cala à 4 heures du matin, quoi. C'est quand même un truc.
Et quand ça a commencé à reprendre, quand il a été au milieu de son groupe, effectivement, il a voulu laisser les responsabilités à
ses joueurs. Il voulait voir où les joueurs sortaient, où les joueurs avaient leur habitude. Donc il avait fait un petit peu la tournée des Grands Ducs, et t'as des photos de lui à la Cala, à 4h du matin. La Cala, c'est quand même une boîte, où, je veux dire, quand tu sors, que t'es un peu alcoolisé, que tu te dis c'est 5h, tous les endroits fermés, où est-ce qu'on va? On va à la Cala, c'est ouvert jusqu'à 10h. Donc il a quand même été là-bas, quoi. T'imagines?
Non mais je pense qu'ensuite ça a bien démarré avec les joueurs, et il a voulu laisser un peu les clés, responsabiliser les joueurs, sauf que tu peux pas faire ça encore au Paris Saint-Germain, tu peux pas faire ça avec cet effectif là, c'était pas possible, la preuve. Et il l'a repris de plein fouet. Donc maintenant t'as qu'une seule solution. C'est effectivement lui qui arrête les câlins et qui devient coach et une autorité. Sauf que ça marchera que si t'as deux autres autorités au-dessus.
Voilà, c'est exactement ça.
C'est un directeur sportif qui est très autoritaire et à un moment donné, ça marche pas.
Et un vrai président,
c'était effectivement le sujet de l'année prochaine, lundi prochain. Si t'as pas un Nasser qui, à un moment donné, tape du poing sur la table quand ça va pas.
Nasser, faut quelqu'un d'autre.
S'il arrive pas à le faire, cette saison, il l'a pas compris.
Une dernière chose, parce que Thomas Tuchel, on va tous être d'accord, c'est un super tacticien. C'est un entraîneur qui est de très grande qualité.
C'est pour ça qu'il faut qu'il reste.
Mais je pense que dans le contexte où t'as un club qui est très mal structuré, avec une présidence fantôme, avec les conflits internes avec la direction sportive et des joueurs qui sont traumatisés et dans lesquels il faudrait mettre un bon coup de pied dans la fourmilière, renouveler l'effectif, mais tu sais que ça va pas se faire. Est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation dans ce contexte-là? Je remets pas en cause ses qualités d'entraîneur. Je dis juste adéquation entre l'entraîneur. Pas d'expérience de grand club.
Ouais, mais
et
moi
ce
je vais te dire, si t'es pas capable à un moment donné de renouveler effectivement ton effectif et effectivement de donner chacun ses limites et ses pouvoirs, tu pourras mettre le coach que tu veux finalement, ça marchera pas. Donc si tu ne restructures pas et que tu ne redéfinis pas les rôles comme il faut, ça marchera jamais.
Faudrait un mec. Si tu restes dans ce contexte-là de désorganiser et tout,
tu peux mettre qui tu veux. Si ça va se plaindre au-dessus, les joueurs vont se plaindre au-dessus et qu'on leur dit t'as raison, allez c'est pas grave, ça marchera pas non plus. Tu vois, le mec ne pourra pas asseoir son autorité.
Ça serait franchement sur une jambe de bois.
C'est terminé à Niort, égalisation de Lorient dans les dernières secondes, 2-2 score final entre Niort et Lorient. Lorient 5e de Ligue 2, 2 points d'avance sur Lens. Désormais, il reste 2 matchs à jouer dans cette Ligue 2. C'est très serré. Paul est avec nous au 32-16, supporter du PSG. Salut Paul.
Ça va les mecs?
Salut Paul.
Bonsoir. Ça va et toi?
Ça va pas mal. Je voudrais remercier déjà Jonathan sur le fait qu'il dise que Tourelle n'a pas entraîné un aussi grand club. Franchement, je pense que Dortmund, à l'échelle de son histoire et à l'échelle européenne, ça reste devant Paris quand même.
Non, mais en termes de structure.
Ouais, peut-être.
Alors à l'instant T, non, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas la même attention médiatique.
Alors, pas en termes de structure, parce que moi je pense que Dortmund t'as des structures bien supérieures à celles du Paris Saint-Germain. On en rediscutera dans 3 ans quand tu auras un nouveau
centre d'entraînement financier, en termes de
c'est surtout en termes d'objectifs que c'est pas les mêmes clubs.
En termes d'expérience de gestion de club, on a des gars qui sont encore tout frais. Le Real Haifi, ça fait 8 ans qu'ils découvrent le football. Dortmund, tous les dirigeants, c'est soit des anciens du club, soit des papas de la Bundesliga. Donc, je pense qu'ils ont.
Dortmund n'est pas amené à jouer les premiers rôles en Ligue des Champions automatiquement. C'était ça ce que je voulais dire.
C'était plus les objectifs et les investissements.
En fait, et bon, après, pour revenir sur le renouvellement d'effectifs, malheureusement, je crois, comme t'as dit, Jonathan, j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir virer 10 joueurs sur les 25 que l'on a. Donc, il va falloir composer avec ce qu'on a. Je pense que Tourelle a été aveuglé par le niveau de la Ligue 1, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il a voulu faire le dur, il a vu que l'équipe tournait bien, mais sans penser que la Ligue 1 n'était peut-être pas le championnat le plus difficile du monde. Et il s'est dit, bah écoute, l'équipe tourne bien, je vais peut-être pas les faire chier, autant chier que j'allais. Donc, bon an mal an, il a un peu lâché la main et puis l'équipe est partie un peu à volo comme on dit et ça va être difficile pour lui de retrouver un vrai leadership au niveau de je vais pas les laisser faire des conneries quoi. Donc ça va être dur pour lui je pense.
Ce qui sera déterminant, c'est si on le laisse faire et si on l'accompagne là-dedans dans la démarche. Si au-dessus de lui, on l'accompagne, il pourra le faire, je pense. Sinon, c'est perdu d'avance.
Merci, Paul.
Après, attendez les gars, et j'aimerais bien aussi que le club parle. J'aimerais qu'on entende ces messieurs. J'aimerais qu'on nous explique ce qu'on a envie de faire la saison prochaine.
Hein, quand quelqu'un parle au PSG, il faut 1000 autorisations. Alors là, Antero Henrique, il va se donner à lui-même l'autorisation de parler, peut-être.
Et ben, alors que Al Real ici parle vraiment et qu'il arrête de faire des réponses alambiquées, qu'il nous dise ce qu'ils veulent faire l'année prochaine, c'est quoi le projet.
Ouais, il a très peu parlé cette année, ouais.
Ouais, non, mais on les entend jamais, donc je pense que cette saison, elle mérite bien qu'on les entende cette saison, franchement.
C'est vrai.
Voilà.
Salut Paul.
Bonne soirée, les mecs.
Bonne soirée. Pour conclure sur le PSG, sachez que le PSG effectuera une tournée en Chine cet été. Alors, il y a le trophée des champions à Shenzhen contre Rennes.
Ouais.
Mais ils joueront aussi en Chine contre l'Inter et contre l'Espagnol Barcelone. Alors, l'Espagnol, ils sont là-bas parce qu'ils ont une star chinoise dans leur effectif. Donc voilà. Donc,
on sera un petit PSG à Inter.
Tournée américaine pour les Parisiens.
Ça fait deux beaux matchs pour l'été.
Trois,
c'est vrai, ouais. C'est un petit peu après le trophée des champions.
De comment ça?
C'est un petit peu après le trophée des champions, ça arrive à la fin de l'été.
Les trois matchs, c'est tous les trois jours, c'est trois matchs.
Okay.
Ouais, je crois que c'est 27-30 juillet.
On fera des trucs à débriefer, c'est bien.
Ouais, voilà.
Tiens, puis tout à l'heure, on parlait de Jean Fernandez.
Oui.
Rendez-vous avec Mourinho. Vous savez qu'on a les archives dans la. Donc, Saint-Etienne, les gars, ce qu'il faut pas faire. Mais ce qu'il faut vraiment pas faire, messieurs Gasset, Cayazo et Romeyé, c'est ça.
De pouvoir serrer la main à Mourinho, ça c'est quand même, ça c'est sympa. Hein. Je vais faire une photo avec lui.
Ah non, mais là ça partait mal.
Rappelle, ouais.
Et voilà, moralité.
Eh ben, fini.
Ouais. Non, ouais.
Allez, merci, au revoir, au cerf.
Ouais.
Dans quelques instants, le baromètre du moral des supporters de la Ligue 1, tout le reste de l'actu du jour. On va notamment parler de l'équipe de France des moins de 17 ans. On va parler de la Ligue des Champions
Irlande,
qui arrive.
Ils sont en Irlande.
Ils sont en Irlande, exact. On va parler d'Iker Casillas. Bref, tout ça, c'est dans quelques instants dans l'after.
Mais dans l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Pierre Ducrot, Jonathan Macardy, on suit Manchester City, Leicester, peut-être un match qui va envoyer les City vers le titre. Et là, il y a eu une énorme occasion pour Leicester, Iheanacho. Il a réussi à la foutre à côté alors qu'il avait juste le gardien en face de lui avec le but derrière. Hein, donc, même pas cadré.
Ah ouais, non, pas cadré, non, pas du tout.
C'est un genre de City, Iheanacho.
Non mais parce que pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, il est face au but tout seul et...
C'est pas non plus une choupeau, hein.
Oui, enfin, il a mis à 5-6 mètres du but quand même, alors qu'il est... c'est un très beau loupé quand même.
Peu, ouais. C'est pas une André-Pierre Gignac.
Ah ça non, il est plus à droit.
Mais qu'est-ce que t'as avec Gignac là?
Ah, il a mis son 102e but avec les Tigresses, il a égalé le record.
102?
Ouais, 102, ouais. Donc c'est quand même extraordinaire, c'est vrai.
Ça fait combien de temps qu'il est là-bas?
4 ans.
Tu sais que de toute façon ça n'a aucun sens vu que le championnat mexicain est d'un niveau pourri.
Pas ah du bon. Tout, pourquoi?
T'as déjà dit ça, Pierre, c'est pas toi qui as dit ça.
J'ai jamais dit ça, moi.
Et très bon niveau, le championnat mexicain.
Pourquoi tu mets ça, je te confondre avec quelqu'un.
Ah oui, j'ai jamais dit ça, moi.
C'est Jérôme, non, qui a dit.
C'est Jérôme.
Ah oui. Il a dit ça, si, ça.
Non, en plus, j'adore le foot sud-américain. Oui, Joe le sait.
Bah là, c'est pas l'Amérique du Sud, hein.
C'est encore meilleur.
Oh, c'est un peu l'Amérique.
Le championnat mexicain, c'est le meilleur du continent.
Ouais, enfin, c'est le Sud. Quand c'est plus le Nord, moi, c'est le Sud. Il n'y a pas le centre.
Bon, d'accord. Alors, deux, trois petites infos avant de passer à notre baromètre de la Ligue. Ah oui, non, j'attends, vous vouliez réagir aussi aux infos marseillaises.
Ah bon?
Bah, je croyais.
Non, mais lesquelles?
On part un peu cette émission, quand même. On annonce la Provence. RMC l'a dit déjà de nombreuses reprises, que McCourt commence à se poser des questions.
Ouais.
À la fois sur Zubizarreta, à la fois sur Héro, à la fois sur l'effectif, que tout le monde se pose des questions sur tout le monde en fait. Héro se pose des questions sur Garcia, McCourt se pose des questions sur Héro, Garcia lui se pose des questions sur les joueurs, bref. Et là c'est la Provence.
Moi j'aimerais bien, toi qui as pas mal de...
C'est la Provence qui confirme les infos.
D'infos et qui aime ce club, le vrai rôle de Zubizarreta là-dedans, parce que moi j'ai l'impression qu'il est pas responsable de grand chose,
Zubizarreta. Je pense que bout à bout depuis l'arrivée de Garcia, je pense qu'on peut mettre 4 heures de compilation où je dis que le problème c'est Garcia et Héro, il faut qu'ils partent pour le bien du club, c'est fini, il faut vraiment qu'ils s'en aillent, ils ont fait n'importe quoi. Après le rôle de Zubizarreta, le problème c'est que... Il a proposé beaucoup de joueurs, et en fait le problème c'est que Jacques-Henri Hérault nous vend un triumvirat Garcia, Jacques-Henri Hérault et Zubizarreta, sauf que c'est un binôme, c'est Garcia et Hérault qui décident les joueurs. Je vous donne juste deux exemples, c'est le premier c'est que Zubizarreta ne voulait pas le recrutement de Kevin Strootman, il voulait prendre Valentin Rongier. Ça peut se discuter, peu importe ce que vous voulez, mais en tout cas il ne voulait pas.
Bah, quand on voit la saison des deux, je me rends plus derrière Rongier.
Zubizarreta avait quasiment obtenu le prêt de Dani Ceballos du Real Madrid. Garcia a mis son veto. Zubizarreta, il propose des joueurs, on lui dit non. Bah au final, qu'est-ce que tu veux, il sert à pas grand-chose si ce n'est qu'il a bien restructuré deux trois choses au centre de formation, il a pris ce qu'il pouvait prendre en main, mais pour l'équipe première,
il peut pas travailler.
Je pense que c'est quelqu'un de qualité, Andoni Zubizarreta.
J'en suis sûr aussi, moi.
Plus maintenant, le problème c'est que t'as un président qui connaît rien au football, j'ai rien contre lui, mais qui connaît pas le monde du football, c'est un novice
Le problème aujourd'hui,
tu peux pas arriver en tant que novice dans un club comme l'Olympique de Marseille. Ça peut marcher peut-être ailleurs, mais pas dans un club comme l'OM.
Et le souci, moi, je pense, dans tous ces clubs-là, c'est qu'à un moment donné, les dépassements de fonction, quoi. Que tu sois coach et que tu donnes ton avis, effectivement, sur un recrutement,
c'est normal.
Que tu donnes ton avis.
C'est normal.
Mais c'est pas à toi de décider. On était, t'es recruté comme coach pour faire le meilleur possible avec ce qu'on te donne comme joueur. Et le directeur sportif, logiquement, il est là avec des compétences.
Des compétences sportives,
avec un réseau pour amener des joueurs, des compétences pour connaître la qualité et les défauts des joueurs, et il doit faire son boulot.
Oui, bien sûr.
T'as beaucoup de clubs aujourd'hui où le directeur sportif ne peut plus faire son boulot parce que c'est le coach qui se substitue au directeur sportif.
Le petit Moïse Kean là qui est en train de flamber à la Juve, Zubizarreta a fait le pressing tout l'été pour le prendre et il était à deux doigts de le prendre, mais ça a tergiversé. C'était un prêt payant et puis il y avait une option d'achat au bout, c'était ça en fait la négociation avec la Juve, et il a fait le pressing auprès de la Juve, et au final, comme la direction olympienne a tergiversé, ils l'ont pas pris.
C'est dommage. Ça fait beaucoup déjà les trois.
C'est dommage. Ceballos, Rongier, Moïskine, c'est ça change la face de l'équipe.
Bah, ça aurait pas
donc
été
voilà,
pire.
Moi, j'ai trop parlé de Marseille depuis le début de la saison. J'attends juste une chose. Je pense que dans le top 5 du kiff là, je pense que les Marseillais ils seront quand même classés si Jacques-Henri Hérault et Rudy Garcia partent, parce qu'il y a un vrai ras-le-bol. Et puis c'est pas personnel, mais c'est juste les compétences, et il faut que ça s'arrête pour le bien du club.
Bon voilà, on n'arrête pas de dire que ce club est le Strasbourg du Sud, totalement injustifié.
Après, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que McCourt
merci
a...
pour Niang et pour Pagis.
Est-ce que McCourt a encore envie d'investir, parce que là t'es dans une situation là sans Coupe d'Europe, tu te débarrasseras pas de beaucoup de joueurs parce qu'ils sont très bien là où ils sont. Il va falloir trouver donc de l'argent pour recruter quelque chose et changer
le problème maintenant. Le problème maintenant, c'est que t'es obligé de réinvestir. T'as fait trop d'erreurs.
C'est ça.
Tu t'alignes tous les recrutements. Au final, il y aura quoi comme recrutement réussi? Morgan Sanson, parce que tu vas pouvoir faire une belle plus-value. Tchalet Tatsar, moi je pense que c'est un très bon joueur en devenir. Donc wait and see. Mais pour l'instant, je suis convaincu par Tchalet Tatsar. Mais au final, Tovin, il arrive avant.
Non, mais Tovin, tu vas pouvoir le vendre.
Non, mais je te parle des recrutements sous la direction Jacques-Henri Hérault, Garcia, Zubizarreta. Et au final, les autres, c'est compliqué quand même. Aucun potentiel de revente, des salaires de ministre, la soupe est bonne, donc ils vont rester. Et là, quand tu regardes, on a fait ce petit jeu vendredi. Qui tu gardes à l'Olympique de Marseille maintenant? Bah là, pour l'instant, il y a juste 6 joueurs à garder. Ocampos, Sakai, Tchalet Tatsar, Camara, Maxime Lopez et allez Valère Germain ou Morgan Sanson, ça joue entre ces deux-là. Ouais. Mais le reste, il faut changer.
Un Gustavo dans une équipe qui marche.
Évidemment.
Qui marche. Évidemment. Ça va
c'est
le faire
Gustavo en 6, c'est peut-être un 7e, soit.
Sakai, tu l'as mis?
Ah ben bien sûr, je l'ai mis en premier. Mais avec Ocampos, parce que c'est les deux seuls joueurs qui peuvent regarder dans la glace à la fin des matchs. Mais les autres, c'est des joueurs qui sont soit en fin de carrière, qui ont un très gros salaire, donc ça va être très difficile de les revendre. Soit ils sont pas en fin de carrière, mais ils ont aussi un très gros salaire qui fait qu'ils voudront pas aller dans un club inférieur. Donc là, tu t'es mis dans la merde. McCourt, il a pas d'autre choix. Il faut qu'il sauve son investissement. Il faut qu'il remette de l'argent. Mais surtout, la vraie priorité maintenant, c'est de nommer quelqu'un à la tête de ce club qui connaisse le football, qui connaisse l'environnement marseillais et surtout, qui nomme un entraîneur qui soit compétent. Je n'ai rien contre Di Garcia, mais dès le départ, je l'avais dit, le jour où il a signé, c'était l'erreur de casting et le club courait à sa perte en le faisant signer. Donc, voilà. Moi, je veux juste tirer un bilan. Je vais m'arrêter parce que j'ai beaucoup trop parlé de l'OM depuis le début de la saison. Mais on a beaucoup rigolé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses rocambolesques avec l'ancienne direction, avec Labrune et Anigo. Mais je pense que Labrune et Anigo, tu leur aurais donné le budget de McCourt, les 200 millions d'euros. Je pense que l'équipe, elle aurait un autre visage.
Voilà l'avis de Jonathan. Il a beaucoup d'avis sur Jonathan. Il vient pas souvent le lundi, mais alors il.
Il stocke. Et puis.
Vendredi, avant d'arriver là, avant Marseille-Strasbourg, j'étais malade. J'ai vomi pendant le match. J'avais mangé un truc, etc. Je te jure, à la fin du match, j'étais tout rouge. J'étais remonté. J'ai pas arrêté de crier. Il m'énerve. Ça m'énerve. Il me rend fou.
Vous avez eu chaud à la fin.
À la fin, non, mais. Ouais. Chaud, c'est-à-dire.
C'est plus chaud quand même, il y a 2-3 cas à Strasbourg.
Ah bah bien sûr. Mais à la rigueur ça aurait été mérité. Tu viens à Strasbourg en jouant à 5, ça va. Non mais dans l'intention Gilbert, t'arrives à Strasbourg en jouant à 5, tu fais des changements frileux, tu attends juste la 78e minute pour sortir un milieu et mettre un attaquant stop.
C'est la première mi-temps, les Marseillais, c'est une catastrophe.
Mais tu es dans une période où tu peux pas faire mieux, c'est ça le problème.
Balotelli une action le reste du temps. Ouais. Mais c'est insupportable.
Balotelli, moi je me pose des questions sur son niveau physique. À un moment, il y avait un contre marseillais, donc il a piqué un sprint de sa propre surface à la surface adverse. Mais je vous garantis qu'il a mis 4 minutes à s'en remettre.
Mais contre Nantes, il avait des crampes à la 60e minute.
On se pose même pas de questions, Gilbert.
Ça veut dire quoi, Pierre? Tu le sais. Un mec, si t'as des crampes à la 60e minute, c'est que tu t'entraînes n'importe comment la semaine.
Ouais, ou c'est surtout que t'as pas fait de préparation de début de saison et que t'as jamais eu un entraînement.
Tu sais ce qui fait encore plus mal aux supporters marseillais, c'est que là, sur Twitter, il y a une chose qui circule avec Gilbert Bribois à l'honneur. C'était qu'il y a 9 ans, jour pour jour, Marseille gagnait contre Rennes et c'était Gilbert. Il y a une vidéo qui circule avec Gilbert en commentaire avec Flo sur le but de Mamadou Niang et le but de Lucho Gonzalez.
Encore une légende, Mamadou Niang.
Plus grand attaquant africain de l'histoire de l'OM. Sans discussion possible.
Oh, Drogba, c'est une allumeuse.
Drogba, c'est l'amour de vacances qui t'a connu une saison et puis après elle te dit ouais je vais revenir avec toi et puis elle revient jamais. Mamadou Niang, c'est la mère de tes enfants qui est restée, qui a mis 100 buts. Pour moi, Mamadou Niang, c'est une légende.
Il te fait le but du titre.
J'aime beaucoup Mamadou Niang, mais Drogba,
ça a été une allumeuse. Il a tout gâché après en faisant ses petits appels du pied, sachant très bien qu'il ne reviendrait pas.
Tu parles d'autre chose, mais sur le terrain, il a été très performant.
Bon, il y a tout qui compte.
Passons à la suite. Les gars, vous le savez, tous les lundis, on s'amuse depuis quelques semaines à évaluer le baromètre du moral des supporters de nos clubs. Alors, il y a le top 5 du kiff, c'est-à-dire les supporters qui ont le plus kiffé toute la saison. Et puis, il y a le top 5 de la lose, évidemment. Démarrons par le top 5 du kiff. Le classement arrêté la semaine dernière était le suivant. Premier, les supporters rennais.
Normal.
Deuxième, les supporters strasbourgeois. Troisième, les Lillois.
Ouais.
Quatrième, les Stéphanois. Et cinquième, les Montpelliérains. Est-ce qu'on bouge cette semaine?
Ah, tu fais avancer Saint-Etienne d'une place, moi je pense.
Ah non, parce que ouais, mais Lille.
Ah si, ils sont là.
Piro,
ils sont quasiment sur les deuxièmes.
À Lille, en début de saison, ou même à la fin de la saison dernière, en début de saison. Et les gars, vous allez vous qualifier directement en Ligue des Champions. Personne n'y aurait cru.
C'est Lille avec, mais tu fais avancer Saint-Etienne, tu fais reculer, je sais pas, il y a qui devant.
Rennes et Strasbourg.
Et ben tu mets Rennes juste derrière, ils sont heureux, mais là en ce moment, attention, c'est un classement cette semaine, hein.
Rennes,
c'est un classement cette semaine.
Moi Saint-Etienne, je l'ai fait avancer si ils sont en Ligue des Champions au dépend de leur
rival. Tu les mets droit devant,
un trophée ça remplace, il y a rien qui remplace un trophée. Je pense que ça sera là où ça peut se jouer, entre Lille et Saint-Etienne.
Alors il y a débat parce que s'il y a un qui remplace un trophée, où est le PSG avec son trophée des champions?
Je propose.
Pas le trophée des champions, pardon. Son trophée parce qu'il est champion.
Je propose de mettre troisième ex-aequo.
Oui.
Lille et Saint-Etienne.
Ah, l'homme du conseil, c'est un vrai François Héro ce soir.
Ah, j'ai vu que t'allais dire François Hollande.
Attends, là, ils sont à fond, les supporters de Saint-Etienne, là, t'imagines.
Et donc, cinquième, on laisse Montpellier, hein.
Oui, ils ont une belle petite saison, dit de leur
qui
plante.
Tu pourrais faire passer cette semaine,
Malgré l'histoire de la VAR,
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi.
Concernant Montpellier.
S'ils se maintiennent.
C'est quelque chose de qui doit représenter l'état d'esprit de la semaine. Hein.
Quand s'ils se maintiennent.
Non, mais faut aussi prendre en compte.
Ah, mais quand s'ils se maintiennent, ce sera à la fin.
Alors attention, top 5 de la loose. On avait en 1 Paris, en 2 Marseille, en 3 Lyon, en 4 Monaco, en 5 Bordeaux.
Ah bah premier ouais, Marseille.
Tu peux laisser ça. Est-ce que Monaco y est? Ouais.
Ah non, moi je mets premier l'OM.
Toi, tu fais passer Marseille.
Ouais,
parce que là, Marseille risque même de finir au-delà de la cinquième place. T'as les perspectives d'avenir qui sont ultra sombres quand tu vois ce qu'on vient de dire la saison prochaine, les joueurs, etc. Moi, je mets en premier.
Oui, moi, je préfère toujours que Marseille passe devant Paris au top du flop.
Oui, mais là, c'est pas.
Non, ouais, si tu veux. Moi, de toute manière, dès le départ, j'étais pas forcément d'accord.
Les supporters du PSG, là, ils sont.
Ah oui, mais
je suis désolé, on est obligé de laisser Paris.
Bon,
hein.
Voilà, donc ça, on va pas en reparler, mais pour moi, c'est quand même des supporters qui sont champions, même s'il y a une amertume par rapport à tout ce qui s'est passé cette saison.
Paris-Marseille.
Ensuite, il y avait Lyon, Monaco, Bordeaux.
Bordeaux, je les enlève, parce que Bordeaux, même si ça, ils enchaînent les défaites.
Tu mettrais pas les supporters de Lyon et de Monaco devant les supporters du PSG, quand même?
Mais non, parce que
les attentes.
Je te rappelle, là,
si Lyon n'a pas la Ligue des Champions, les attentes, elles sont là.
La hauteur de la chute dépend de la hauteur.
Exactement. Et la soirée après Manchester, je peux te dire qu'elle est encore dans les mémoires de pas mal de supporters parisiens. Mais ouais, Guingamp. Parce que Bordeaux, en fait, ils sont avec leur nouveau projet, ils sont dans une phase de transition, ils peuvent perdre tous les matchs jusqu'à la fin, ils vont se maintenir, ils ont signé un très bon entraîneur, ils ont des perspectives qui sont plutôt intéressants pour le mercato d'été. Donc oui, Guingamp, pourquoi Guingamp? Parce que Guingamp, quand Gouvenec arrive, on se dit ah ça va aller mieux, machin et tout, et puis c'est vrai qu'il y a une petite amélioration. Mais au final, quand tu vois la dernière série de matchs, ils sont apathiques. Et sur le match contre Caen, un match où ils doivent aller chercher quelque chose, parce que c'est eux quand même.
Rien.
Ils foutent rien, et Gouvenec, il commence la rencontre avec trois milieux de terrain en laissant même Lucado sur le banc, et puis en cours de match, les changements, rien, aucune ambition. Ça a été l'encéphalogramme plat alors que c'était le match de la survie.
L'ambition quand t'es là, c'est dur.
Tu parlais de McCourt qui devait remettre des sous. Rafraîchissez-vous la mémoire. Jean-Claude Gaudin, quand McCourt déboule à la mairie de Marseille. Mythique.
Nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous vous demandons.
Et pas, bon, voilà l'oseille.
Quelle classe. Gaudin, en résumé en 5 secondes.
Ouais.
Bon, quelle élégance. C'est fini entre City et Leicester. Victoire de Manchester City 1-0 face à Leicester. Donc, il reste une journée en Angleterre. Tout se jouera là. C'est très simple. Hein. City jouera à Brighton.
C'est fini.
Et Liverpool reçoit Wolverhampton. Voilà, en sachant qu'il y a un point. Non, attends, on n'en est pas un point là.
Si, il y a un point.
Si, il y a un point.
C'est fini, Pierre, on est d'accord.
Ah, attends, Brighton, tu sais pas, hein. Brighton, il peut. Brighton, ils sont sûrs de se maintenir, Brighton.
C'est la première ligue, Jo.
On va en parler dans quelques instants.
Il y a beaucoup de chances que ce soit fini, effectivement.
Dans quelques instants, les drôles de l'âme. Toute l'actu Ligue des Champions. Je rappelle que demain, on a un énorme Liverpool-Barcelone au programme. Et puis, bien sûr, l'analyse de ce match de City avec Julien Laurence qui est au stade ce soir à Manchester. À tout de suite dans l'After.
RMC, l'After Foot.